effectivement point commun avec les films qu'on a vus précédemment. Là aussi, on a une héroïne avec on va voir plusieurs thématiques de la commune. Donc, Mike est élu d'un peuple nouveau, long métrage néo-zélandais, Nikki Caro, une réalisatrice néo-zélandaise aussi. C'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Whale Rider, qui est le titre VO du film. On en parlera rapidement tout à l'heure. Il y a plusieurs. Le film n'est pas très fidèle entre guillemets au bouquin, enfin, en tout cas il est traité différemment. Mais voilà, on verra la façon dont il est réadapté. C'est donc l'histoire, on va regarder la bande-annonce ensuite, mais c'est donc l'histoire de Paika. Alors elle naît, j'ai marqué le jour de la mort de sa mère. Sa mère va malheureusement perdre la vie quand elle va donner naissance à Paika. Et elle va aussi, Paika a un frère jumeau qui va lui aussi décéder au moment de l'accouchement. C'était pour ce nouveau-né qui va malheureusement perdre la vie. C'était le premier descendant mâle de la famille, et c'est lui qui devait prendre la tête du clan. Et donc Paika va être la seule descendante, une fille donc, ce qui va représenter une immense déception pour son grand-père Koro, qui est le chef du clan. Donc on verra hein, toutes les problématiques autour de ces questions sur les traditions et tout ce que ça implique au niveau de ces problématiques-là. Donc à 12 ans, on va très vite retrouver Paika, elle a 12 ans, et elle va essayer au maximum de prouver qu'elle est capable de devenir le leader, de prendre la tête du clan. Elle va essayer de prouver que malgré le fait qu'elle soit une fille, elle peut elle aussi jouer ce rôle très important. Son grand-père refuse catégoriquement de l'écouter, même si on va voir que la relation n'est pas totalement manichéenne. Mais voilà, il y a une vraie incompréhension de la part du grand-père qui va essayer de la mettre à l'écart et qui va essayer de trouver un garçon pour prendre la relève, j'allais dire. Et puis, on verra tout à l'heure la scène, il va y avoir beaucoup d'opposition entre les deux personnages pendant tout le film, jusqu'à une scène finale assez forte, puisque le grand-père va... Alors, il y a toute une légende, la légende de Paika, c'est... les gens du fameux Whale Rider, celui qui chevauche les baleines, qui était arrivé selon la légende maori il y a 1000 ans, qui est un personnage un peu mythologique, et à chaque fois, celui qui arrivera à dompter les baleines, on va dire, à les chevaucher, ce sera le nouveau chef. Et vers la fin du film, on verra la scène tout à l'heure, il y a des baleines qui vont venir s'échouer sur l'île près du village. Et c'est finalement Paika qui réussira, à dompter ses baleines et qui montrera à son grand-père que, dans une espèce de moment un peu fantastique, va montrer à son grand-père qu'elle est capable de prendre la relève et tout. J'allais dire de battre un peu les traditions. Donc le film est réalisé par Nikki Caro. Elle est née en 1967 en Nouvelle-Zélande. Elle avait réalisé un premier long métrage qui s'appelait Memory and Desire, qui avait été repéré notamment en 1998 au Festival de Cannes, et qui a eu beaucoup, beaucoup de récompenses. Et ici aussi, avec son deuxième film, il va être nommé dans beaucoup, beaucoup de festivals. La jeune comédienne qui interprète Pai, qui s'appelle Keisha Castle-Hughes, elle va être nommée aux Oscars en 2004 pour son rôle justement de Pai. Et le film figure sur la liste du British Film Institute, parmi les 50 films à voir avant 14 ans. Voilà, c'est un film qui a une importance, alors, et qui a aussi une genèse intéressante, puisque Nikki Caro, déjà, avant de commencer à travailler sur le film, elle a appris les rudiments des dialectes maori, elle a essayé de s'imprégner au maximum de toute cette culture, et puis surtout, elle a proposé le film à une communauté maori. Et c'est eux qui ont, entre guillemets, validé le film, qui ont validé son scénario et qui ont accepté de donner leur aide pour le film, puisqu'il y a beaucoup de figurants et de personnages dans le film qui sont en fait de vrais habitants de villages maori. Et il va y avoir une collaboration entre la réalisatrice, la production du film et ces villages, notamment à la fin du film, ils vont construire un grand bateau traditionnel pour la scène de fin qu'ils offriront au final au village, etc. Une collaboration qui a été née vraiment en confiance, j'allais dire, avec le peuple maori. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film. Je n'ai pas fait le petit sondage. Est-ce que certains ont vu le film déjà ou pas? Non, d'accord. On regarde la bande-annonce du film qui est en version originale sous-titrée. Ça vous permettra de voir déjà quelques images. Voilà. Alors, on va le voir. Il y a différentes thématiques, comme je disais tout à l'heure, des thématiques en commun avec les films qu'on a vus ce matin. Donc, cette héroïne très forte, très déterminée, on verra. La relation aussi avec sa grand-mère, le personnage de la grand-mère, et la solidarité féminine dont on parlait ce matin qui est présente aussi ici. Et puis la relation grand-père aussi qui est très importante, on va beaucoup en parler, parce que c'est, j'ai envie de dire que le grand-père Koro, c'est presque le personnage principal après, enfin avant Pai ou après Pai, mais ces deux personnages principaux qui s'affrontent, et on verra, c'est quand même tout en nuance. Et puis la mythologie aussi, le problème de, on va aborder ça, le problème de la transmission de la tradition contre la modernité, et comment on peut réussir à passer outre ça. Le film est quand même assez, en termes de réalisation, j'allais dire assez sage, c'est-à-dire assez classique, mais avec de très beaux moments d'émotion. À la fois, il y a un beau travail de mise en scène, de montage aussi. Et alors c'est un rythme un peu particulier, je sais que les élèves n'ont pas toujours forcément l'habitude, c'est un film quand même qui est assez lent, donc voilà, ça sera peut-être aussi des choses à aborder avant de démarrer le film. Ça peut être parfois assez contemplatif, etc., mais il y a une très très belle finesse, et on va voir ces différentes problématiques qu'on va aborder, notamment ce qui est intéressant à voir, c'est la façon dont, alors c'est juste après, la façon dont le film va suivre la structure du conte, on reviendra un petit peu dessus après, mais je l'aborde déjà maintenant, puisqu'on va avoir une structure assez classique hein, au final. D'abord, le film va s'ouvrir sur cette, j'en parlais tout à l'heure, sur cette double tragédie de la mort de la mère de Pai et de son frère jumeau. Et cette problématique qui est posée au départ, cette héritière féminine qui va être rejetée par son grand-père, les différentes péripéties, puisque donc on va voir grandir Pai, on va la suivre, elle va vivre avec ses grands-parents, puisqu'en fait on a, elle va perdre sa maman donc à la naissance, et son père va être traumatisé par cette perte, va décider de partir, de confier sa fille à ses grands-parents. Et lui va partir en Europe, il va être un peu la figure aussi de la problématique dans ses tribus, enfin ses villages, ses communautés, de parfois la difficulté de continuer à vivre une vie avec le poids des traditions. Lui il va être celui qui va s'échapper, il va partir en Europe, il va devenir artiste en Allemagne notamment. Donc Pai va grandir avec ses grands-parents. On va suivre, il y aura toute une succession de moments où Pai va essayer de faire sa place dans ce milieu très masculin, puisque son grand-père va fonder une école, qui va appeler l'école de la tradition, puisqu'il va chercher à trouver un garçon, une figure qui va pouvoir remplacer le petit-fils qu'il a perdu, et qui sera donc le prochain chef de la communauté. Donc il va chercher un peu en vain ce petit garçon pendant que Pai essaye de lui prouver qu'elle aussi, elle peut faire l'affaire. Et puis ce dénouement avec cette scène qu'on verra avec les baleines et cette boucle, on verra aussi à la fin, parce que le film fait une espèce de boucle, on revient à la fin sur une espèce de renaissance de Pai quand elle va, on reviendra à l'hôpital d'ailleurs à la fin, quand elle va réussir à parvenir à ce statut un peu sacré. Petite parenthèse, mais je ne sais pas pour vous faire peur, mais je veux quand même en parler, ça me paraît important, c'est la scène d'ouverture du film. Je pense qu'il faut un petit peu préparer les élèves avant d'aller voir le film, parce que la scène d'ouverture, ça démarre sur l'accouchement de la maman et sur son décès. C'est une scène, alors c'est pas rien de très graphique, rien de gore ou quoi que ce soit, mais quand même, on voit la maman en souffrance, on voit la maman hurler, et on a quand même un plan, un moment de la maman sur son lit d'hôpital décédée, et le père qui pleure à côté, etc. Donc, c'est une scène un peu dure. Donc je pense qu'il faut quand même un peu préparer les élèves à ça, parce que c'est émotionnellement intense. Ce qui peut être intéressant à dire aux élèves, c'est que déjà, c'est certes une scène de scène tragique, quoi, une scène de mort, mais en même temps, ça va être aussi la porte à une nouvelle vie, à une renaissance aussi de la part du personnage de Pai, et que le reste du film va être plus gai quand même, et en tout cas, il y a un espoir qui naît après cette scène un peu difficile. Peut-être aussi, alors ça, c'est, je ne sais pas comment ça se passe avec vos élèves, mais peut-être aussi, je leur expliquais d'ailleurs que... Bah, au cinéma, des fois, on peut faire face à des scènes un peu difficiles, qu'ils ne sont peut-être pas dans l'obligation de la regarder, s'ils sentent que émotionnellement c'est un peu difficile. Personnellement, même moi, elle m'a un peu impressionné, en tout cas au regard du fait que les élèves vont assister à cette scène, voilà, il faut être un peu préparé. Je ne veux pas vous alerter, c'est pas non plus une scène, mais voilà, il faut être au courant, quoi. Oui. Alors je vais essayer, si vous voulez, je vais essayer de vous passer. Je ne l'ai pas prévu dans le slide, mais j'ai le... Ah. Je peux vous le fournir si vous voulez avec la présentation. Comme j'ai le film, je peux vous l'extraire. Oui.
Ouais.
C'est une bonne idée. D'autant que c'est une des scènes d'intro du film. Hein. C'est vraiment la première scène. Donc voilà. Après. Tout va bien, mais c'est un peu, faut être prêt, quoi. Mais effectivement, oui, c'est une bonne idée. Je vous la mettrai en lien aussi, ouais, sur. Si on a le temps, on peut la regarder aussi d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, on va avoir plusieurs personnages importants. Évidemment, on va avoir le personnage de Pai, cette petite fille avec qui va être très déterminée, qui va avoir cette quête. On verra, c'est une fille qui est très courageuse, qui est très douée aussi d'ailleurs, hein, et qui ne cherche pas à prouver sa capacité à prendre le pouvoir juste par ambition. Mais c'est vraiment, on verra, la relation avec le grand-père et ce désir d'être aimé, puisque au début du film, on a donc la mort de son frère jumeau, on a ces deux bébés qui sont tous les deux dans leur petit lit, dans leur petite couveuse. Et on va voir en fait le grand-père qui dit très clairement, moi je ne veux pas reconnaître cet enfant, enfin en tout cas je ne veux pas m'occuper d'elle, c'est la grand-mère qui va la prendre dans les bras. Le grand-père va faire une espèce de chant au-dessus du berceau du petit-fils décédé, une espèce de tradition comme ça. Mais en même temps on va voir qu'il va finir par prendre Pai dans ses bras, qui est un tout petit bébé, et elle va se calmer à son contact. Et donc la grand-mère va lui dire, il y a quand même quelque chose, tu as un lien avec cette petite fille. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, ça va être de voir cette relation entre les deux, puisque à la fois, on va en reparler, mais on va sentir la souffrance du grand-père qui ne veut pas admettre qu'il a une petite fille et que voilà, il n'a pas de descendant mâle. Et en même temps, l'amour qu'il porte pour elle, qui est assez pudique, et qui est bien retranscrit d'ailleurs, je trouve, dans la mise en scène, il n'y a pas un amour qui est très démonstratif, mais on sent quand même qu'il y a ce lien entre les deux, et notamment la scène juste après cette scène à l'hôpital, c'est Pai, à 12 ans, elle est sur le vélo de son grand-père, et on voit qu'ils ont l'habitude, en fait, il a l'habitude d'aller la chercher à l'école, et elle monte sur son vélo, et on sent une espèce de complicité entre les deux. Donc voilà, il y a ce rapport un peu ambivalent. On verra que Pai, c'est aussi la voix off du film. C'est qui va nous raconter cette histoire, la voix va intervenir plusieurs fois dans le film, va nous raconter cette histoire, ce qui renforce aussi cette idée un peu du conte dont on parlait tout à l'heure. Le personnage de Goro, le grand-père, interprété, je l'ai noté plus loin, si il est là, interprété par Rawiri Paratene, qui est très très bon acteur, qui est assez impressionnant, je trouve, de justesse. Je disais donc un personnage complexe, qui est déchiré donc entre cet amour et ce respect de la tradition millénaire, qui incarne, je l'ai noté, mais la figure du surmoi tyrannique. On verra tout à l'heure la définition. Bon, évidemment, ce n'est pas des notions que vous allez aborder comme ça avec vos élèves, mais ça peut être intéressant en tout cas d'avoir ça en tête, ce dilemme, et puis cette quête un peu de l'impossible. Alors voilà, c'est un personnage qui, comme on le voit sur la photo, qui est comme ça pendant un peu tout le film, qui est assez renfermé. Il faut ressentir vraiment la souffrance de ce personnage. On a le personnage de la grand-mère qui va être aussi très importante, Flowers, qui va être un pilier dans cette histoire. Un pilier pour la famille, un pilier pour Paille aussi. On verra que c'est une femme qui n'est pas soumise, qui va un peu à rebours des traditions, même si en même temps elle a aussi sa place dans cette communauté. Et qui va faire figure aussi de mère, évidemment, pour Paille. Face à la perte de sa mère. Les autres personnages présents, j'ai encore oublié la slide, il fallait que je la rajoute, je ne l'ai pas, il faudrait que je la rajoute. Donc le personnage du père, comme je disais tout à l'heure, qui est un père absent, enfin absent pas vraiment, parce qu'il vient plusieurs fois dans le film, mais en tout cas, voilà, on sent bien que c'est pas lui qui s'occupe vraiment de Paille, il vient lui rendre visite de temps en temps, lui il a plutôt la tête en Europe. Mais en même temps, il est très fier de sa fille. C'est pareil, c'est pas tout à fait manichéen. Lui, il a décidé de prendre la fuite, d'essayer d'oublier un peu la perte de sa femme et de son fils, et de s'échapper de ses traditions. Donc, il joue pas vraiment son rôle de père. Et en même temps, quand il est là, on le sent très aimant, on le voit sourire. Il essaye d'expliquer aussi son point de vue à son père qui lui en veut beaucoup aussi d'être parti en Europe. Voilà, il y a une vraie agilité aussi dans la façon dont est décrit ce personnage que je trouve intéressante à aborder. Il y a la figure aussi de l'oncle, on verra un extrait tout à l'heure, l'oncle de Paille, donc le frère du papa, qui s'appelle Rawiri, qui est un personnage secondaire mais qui a une grande importance dans l'histoire, puisque lui va devenir un peu l'initiateur de la. Comment dire, déjà du secret de Paille, parce qu'il va l'aider à, on le verra tout à l'heure, il va l'aider à trouver un objet qui va permettre à Paille d'accéder à son statut d'élu, on va dire. Et il va lui apprendre aussi des rudiments, notamment le maniement du bâton sacré, le Taïa A. C'est un rôle important, en fait, visiblement dans le roman. Je n'ai pas lu le roman, mais de ce que j'ai pu en entendre. En fait, dans le roman d'origine, les personnages sont un peu bousculés, ne sont pas traités de la même manière, et le personnage de l'oncle est un des personnages principaux du roman, puisque c'est lui qui va aussi beaucoup prendre Paille sous son aile. Alors, dans le roman, ce n'est pas le grand-père, c'est l'arrière-grand-père qui s'occupe de Paille et tout ça. Bon, ça a été un peu modifié, mais mine de rien, c'est un personnage secondaire dans le film. En même temps, on le voit beaucoup, et on ne se rend pas forcément compte au premier visionnage. Bon, j'avoue que sur la première fois que j'ai vu le film, je ne m'en suis pas... On s'est aperçu en travaillant sur le film de l'importance du lien que crée ce personnage dans la transmission à la fois de la tradition et dans l'aide qu'il apporte à Paille. On le verra tout à l'heure. On a donc ce conflit, je reviens sur la scène du grand-père en attendant, cette problématique entre le conflit entre la tradition et la modernité et cette relation qu'a Paille avec son grand-père Koro, qui est donc ce chef spirituel du village. On sent que c'est un personnage dont la vie est totalement régie par l'héritage historique de ce peuple, et avec cette idée fixe qu'il a en tête d'avoir un héritier mâle pour lui succéder. Et ce rejet qui est quand même très assez marquant, hein. D'ailleurs ça peut être aussi une des choses à discuter avec vos élèves sur le rejet qu'il a envers Paille au début du film, et le déchirement intérieur qu'on peut voir tout au long du film. Il y a des scènes où il va s'isoler, se mettre à pleurer, on verra un extrait aussi tout à l'heure, et on sent vraiment le tiraillement qui est en lui entre, je disais tout à l'heure, entre l'amour pour cette petite fille et puis son côté très fier et très coléreux. Et en même temps, profondément humain. Voilà, je trouve qu'il y a une sensibilité qui est très très belle là-dedans, et ça peut être intéressant de parler de ça aussi avec les élèves, de l'aspect non manichéen de ces personnages-là, et de comment ils sont retranscrits. Comme je le disais tout à l'heure, Paille, on sait qu'elle cherche pas à devenir chef par ambition, mais plutôt elle cherche un peu l'amour inconditionnel qui lui manque un peu par défaut, j'allais dire, puisque même si c'est pas vraiment dit dans le film, mais on sent bien évidemment l'absence de la mère et le traumatisme que peut être l'absence d'une mère et ce poids qu'elle porte aussi de la perte de son frère à côté, et l'admiration sans borne quasiment qu'elle voue à son grand-père malgré tout, et le fait qu'elle essaye, qu'elle a cette espèce de feu intérieur qui l'anime tout au long du film, et on sent qu'elle est jamais vraiment, elle est triste de ce qui arrive et de la relation avec son grand-père, mais en même temps on sent jamais un moment de découragement en fait chez elle. Elle a une fragilité et on sent aussi la flamme qu'elle a dans plusieurs moments, et notamment le fait qu'elle va on parlera du haka tout à l'heure, mais elle va essayer de s'améliorer dans les enfants apprennent le haka, hein, cette fameuse danse traditionnelle néo-zélandaise, et elle va essayer de s'améliorer. Donc au tout début, il y a plusieurs scènes où ils sont à l'école, ils font des spectacles devant les parents et enfin devant le village, et les enfants dansent le haka et chantent, donc on voit qu'ils sont un peu maladroits, que Pai ne s'en sort pas très très bien, mais elle essaye en même temps. On sent que le grand-père n'est pas tout à fait satisfait de comment elle fait son haka, mais en même temps, bon voilà, elle essaye de le... Hein, puisqu'en plus, le haka, c'est une danse, on le verra tout à l'heure, on regardera un extrait, c'est une danse qui est faite pour impressionner son adversaire ou un nouveau venu dans le village. Donc voilà, elle a à ce côté, elle essaye de créer ce lien avec ce grand-père qui est si difficile à créer. Et l'exclusion dont elle fait preuve est notamment de cette école de la tradition que crée le grand-père très clairement, et voilà, il va y avoir une scène où l'école s'ouvre, il y a plusieurs garçons du village qui viennent, qui s'assoient sur les bancs, et puis Pai va essayer de venir s'asseoir à côté d'eux, et devant tout le monde son grand-père va l'exclure, va lui expliquer que sa place n'est pas là, et en fait Pai va continuer à évoluer en se tenant en fait à l'extérieur du bâtiment. Elle va regarder les enfants par la fenêtre en train de faire leurs exercices, et elle va s'exercer toute seule dans son coin, notamment au maniement du bâton, des bâtons sacrés et du haka. Et puis on va voir tout à l'heure l'importance d'un objet, puisque pareil, le grand-père, toujours dans la quête de recherche de ce jeune garçon qui pourrait être l'héritier, il y a un rituel qui se crée, c'est que le grand-père part en pleine mer et il jette un objet rituel dans l'eau, et il demande au garçon de plonger, d'aller au fond de l'eau pour récupérer cet objet. Celui qui reviendra avec cet objet sera considéré comme l'élu. Aucun des garçons présents sur le bateau n'arrive, ou alors ils ont froid, ou ils ne savent pas nager, etc. Bon, c'est un peu une catastrophe. Le grand-père est complètement dépassé par tout ça, et puis on verra la scène tout à l'heure, Pai va elle réussir à aller repêcher cet objet. Je disais tout à l'heure, Koro, il a cet aspect du surmoi tyrannique. Alors j'ai noté la définition du surmoi dans le dictionnaire. Le surmoi, c'est ce qui incarne notre conscience morale, intégrant les normes sociales et parentales pour maintenir un équilibre psychique. Et les normes parentales notamment et sociales, c'est exactement le problème de Koro ici, puisqu'il essaie d'imposer sa vision, d'imposer son fonctionnement social sur sa famille, bien évidemment, sur son clan et sur elle. Et on sent très clairement le fameux poids de ses ancêtres qui est extrêmement présent, et on sent bien que c'est pas un personnage qui est une méchanceté pure, mais que voilà, quasiment il n'a pas le choix de faire appliquer cette tradition, alors que on sent bien, d'ailleurs les autres personnages essaient de lui faire comprendre que si, il a le choix, mais lui refuse ce choix-là, et il va rester un peu prostré sur sa position jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la scène des baleines qui s'échouent. Et puis l'évolution, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait que le personnage évolue quand même, hein, et c'est un personnage qui reste bloqué mais qui va finir par évoluer quand il va avoir la preuve que Pai est l'élu, hein, il va finir par reconnaître son erreur, donc cette prise de conscience va évidemment venir apaiser la relation entre les deux personnages, entre Pai et son grand-père, et permettre le renouveau de cette communauté et l'apaisement et la renaissance à la fois pour Pai et pour la communauté, quand Pai va réussir à être le, à chevaucher cette baleine. La grand-mère dont j'en parlais aussi tout à l'heure, elle a elle aussi une importance dans ce récit. C'est d'abord une, bien sûr, une complicité avec Pai, on va le sentir, elle fait figure de mère. Elle est tout le temps là et on sent un rapport entre elles, et notamment ça s'extrait d'une scène assez belle où les deux, la jeune fille et la grand-mère, font une espèce de chant ancestral, toutes les deux ensemble. Il y a une espèce d'émotion qui se crée entre les deux qui est vraiment très très belle. On sent qu'elle le partage ensemble un regard aussi sur cette société très dominée par les hommes. Et elles ont un côté un peu ironique. Alors notamment, c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est pareil, c'est pas tout à fait manichéen, mais c'est un personnage qui essaye de s'extraire de tout ça. Et notamment, il y a une scène vers le début du film où elle est en train de jouer aux cartes avec des copines à elle, en train de fumer des cigarettes dans le salon. Et puis elle rigole, elle parle des hommes, etc. Donc on sent qu'elle essaie un peu de s'émanciper de son rôle de grand-mère. Et en même temps, quand elle voit arriver Pai, vite, elles éteignent vite leurs cigarettes, elles essayent d'aérer la pièce et de faire des mamies modèles en train de jouer aux cartes. Mais on sent que derrière tout ça, il y a une figure qui essaye un peu de s'émanciper de ce rôle-là. Donc elle est aussi une figure... Pas uniquement affective, mais aussi un exemple pour Pai, pour pouvoir un peu devenir, s'émanciper de ce statut et s'émanciper de l'aspect purement, j'allais dire, de la femme qui doit rester derrière son homme et tout ça. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le personnage, elle n'est pas non plus totalement contre son mari, contre le grand-père de Koro. Elle respecte aussi les traditions, elle essaie d'épauler aussi son mari quand ça ne va pas. Donc voilà, elle ne rejette pas tout en bloc, elle essaie de... C'est vraiment un personnage un peu de vecteur, un peu de médiateur entre cette tradition et la modernité de sa petite fille. Elle est là, elle fait ce lien qui est assez beau. On sent aussi que c'est un personnage très, très respecté. Il y a notamment une scène pendant une des représentations de l'école, une représentation de Haka. Il y a des jeunes garçons qui essayent de s'échapper parce qu'ils s'ennuient. Et la grand-mère se retourne, elle les regarde avec insistance, et puis ils reviennent vite s'asseoir. On sent qu'elle est très respectée quand même parmi les différents parmi le clan, j'allais dire, et qu'elle n'est pas uniquement soumise, qu'elle fait un peu figure comme ça de contre-pouvoir. Et comme je disais, cette figure de médiation un peu entre les deux, ce qui est assez beau de voir aussi ce personnage qui est dessiné avec beaucoup de finesse. Et c'est aussi un personnage qui va être important dans la transition, la transmission entre la petite fille et le grand-père, de par le moment où Pai va réussir à récupérer ce fameux objet un peu sacré. Et cet objet sacré ne va pas tout de suite être donné au grand-père, il va d'abord passer entre les mains de la grand-mère, qui va le garder pour elle. Donc la grand-mère va savoir en premier que c'est pas il est lu, elle va le garder, et c'est elle qui finira par donner cet objet au grand-père en lui disant voilà, c'est ta petite fille en fait, elle est lue. Donc elle va servir aussi de relais entre les deux. C'est une scène assez touchante, on la verra tout à l'heure. Et en fait, on va déjà en parler de cet objet justement, c'est la slide juste après. Donc cet objet, c'est une dent, c'est l'oreille Pouta. Qui a un collier que porte le grand-père autour du cou, qui a un os de baleine, qui est donc l'attribut du chef. Et quand il va jeter, à chaque fois qu'il va mettre au défi les jeunes garçons d'aller chercher cet objet, alors c'est un objet évidemment très symbolique, hein, avec cet os de baleine. Il y a une symbolique aussi narrative, il y a bien sûr une symbolique dans la communauté maori, mais c'est aussi un objet symbolique dans la construction du film, dans la structure narrative. Il est cet attribut du chef, je le disais, et cet attribut aussi, que je me retrouve dans mes notes, de cette épreuve initiatique. Donc, on va regarder peut-être la scène, en fait, tout de suite, ça permet déjà d'avoir une idée, je l'avais mis un peu plus loin. Donc, il y a eu la scène, je ne l'ai pas mise, mais il y a eu la scène de... d'initiation donc avec les jeunes hommes, c'est assez drôle, donc avec le père qui est très très sérieux, qui part avec son fils, donc l'oncle de Pai, sur le bateau avec tous ces jeunes garçons. Ils jettent le Rikuta à la mer, et voilà, vous devez aller le chercher. Et on a, alors je sais plus, je crois qu'il y a deux garçons avec des pulls qui disent nous on a froid, on n'a pas envie de. Il ne fait pas très beau, tout ça, donc non, on ne veut pas aller plonger. Bon, mais toi tu y vas, mais non, moi je ne sais pas nager. Alors il y en a un autre qui va, mais on sent bien qu'il n'arrive pas à aller très très profond dans l'eau. C'est un peu une catastrophe, et on sent tout de suite le grand-père qui se ferme, et qui va même partir, un peu se cacher, qui va vivre un peu reclus pendant un certain temps, parce qu'il est un peu traumatisé par le fait de ne pas trouver cet héritier. Et puis. Pai va ressortir en mer avec son oncle et sa tante, et on va voir une espèce de naturel avec lequel elle arrive à repêcher cet objet. C'est assez bien, assez drôle, mais en même temps qui est intéressant parce qu'en fait elle réunit plusieurs éléments qu'on retrouve tout au long du film, c'est-à-dire que c'est à la fois, on retrouve ces moments de voix off, hein, sous l'eau, assez contemplatif, avec les plans sur les baleines, etc., qu'on retrouvera aussi vers la fin. Donc c'est ces moments un peu suspendus, comme ça, un peu mystiques. En même temps, on a cet aspect assez drôle qui revient plusieurs fois dans le film, cet aspect un peu léger, avec en plus ce personnage de Pai qui arrive à faire cet exploit de manière comme ça, complètement anodine pour elle. On voit la facilité avec laquelle elle fait ça. Et le personnage de l'oncle, hein, vous avez vu, Ranieri, qui est aussi très drôle. Alors on comprend dans le film que en fait, l'oncle, il était destiné à être l'élu. Enfin, en tout cas, son père, donc le Koro, croyait beaucoup en lui pour être ce fameux Whale Rider, l'élu, et qu'il l'a entraîné, etc. Et que malheureusement, visiblement, il ne l'est pas devenu. Et on voit aussi, enfin, je vais en parler un peu après, mais... on aperçoit déjà dans ces personnages, il y a les deux amis un peu alcooliques de son oncle qui sont souvent là dans le film, on les voit dans plusieurs scènes. Et ça montre un peu, il y a plusieurs scènes comme ça qui montrent un peu l'errance de certaines personnes qui est une réalité dans ces communautés-là, qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui sont en même temps sous le poids de ces traditions-là et qui sont un peu souvent prises de l'alcool et qui végètent. On voit son oncle... tout au long du film, avec ses copains, comme ça, ils sont posés, ils écoutent de la musique, ils boivent des bières, ils font pas grand-chose d'autre. Et en même temps, on voit, il y a cette problématique sociale, on voit l'inquiétude qu'a l'oncle pour Pai aussi, et comment il va, comment il va se jeter à l'eau pour elle. Et en fait, on va aussi comprendre pourquoi son oncle, en fait, il va essayer d'apprendre lui aussi sous son aile et de lui apprendre des choses. Donc on a un peu ces deux sentiments pendant l'extrait, on a cette inquiétude parce qu'elle ne revient pas, donc on a ce côté un peu sérieux, etc., avec cet aspect un peu comique. Ça représente un petit peu ce qui sera présent dans le film, avec cette alternance dans le film de moments un peu lourds et de moments plus légers. Donc on a cette idée que Pai réussit à... je crois que j'étais un peu après... bon, ça c'est après. Mais Pai, il va réussir à la fois là, cette aptitude physique à récupérer le Rikuta, et en même temps, ça souligne aussi le lien qu'elle a avec ses ancêtres et ce côté un peu mystique, justement. Je reviens rapidement sur l'aspect du conte, un petit peu aussi, hein, qui est un peu la colonne vertébrale du film, la façon dont le film l'a raconté, et notamment. Je crois que c'est sur la slide d'après, sur le fait que le film est aussi une espèce de boucle. Il s'ouvre donc le film sur cette séquence un peu à la Il était une fois, entre guillemets, avec une voix off qui vient nous présenter l'histoire. Au tout début, on regardera, du coup, je prendrai peut-être le temps de regarder la scène d'intro pour que vous voyez aussi cette fameuse scène de l'accouchement. C'est un moment un peu crucial dans le film, puisqu'on vient raconter aussi. La légende, on vient parler un petit peu dans cette scène un peu tragique, on vient parler aussi des ancêtres, et le fait qu'il y a un destin à accomplir, il y a un destin à suivre pour le personnage de Pai. Ensuite, la structure du conte qui va un peu s'imposer par ces fameux mythes et ces règles à respecter, hein, c'est un peu ce qui se passe quand on lit plusieurs contes, on a le chef qui doit transmettre des choses, et l'espèce de rupture qui se crée pour ce personnage via la mort du frère et via le fait de rompre une tradition. Et la quête, surtout, le fait d'avoir cette quête qui va un peu la dépasser d'ailleurs, sur réussir à obtenir ce statut mystique aussi, c'est le terme, pour réussir à prouver sa valeur. Et les différentes épreuves aussi initiatiques auxquelles elle va faire face, le fait que, je le disais tout à l'heure, qu'elle s'entraîne toute seule en fait, hein, donc elle doit toute seule réussir à passer toutes ces, tout le maniement du bâton sacré, le raikuta, etc., ces épreuves initiatiques qu'elle passe toute seule. Et l'idée aussi à la fin, sur la scène, on le verra, de l'échouage des baleines, ce côté un peu fantastique qui va apparaître, ce côté un peu irréel, puisqu'elle va réussir à communiquer avec les baleines. Quand les baleines se sont échouées sur la plage, on va avoir tous les habitants du village qui vont essayer et venir essayer d'extirper les baleines et de les faire retourner à l'eau, ils ne vont pas y arriver. Ils vont tous pleurer sur la plage, etc. Et Pai va arriver et elle va réussir à leur parler. Elle va réussir notamment à rentrer en contact avec une des baleines et à lui dire retourne à l'eau, reprend la mer. Et la baleine va réussir à le faire. Donc on a ce moment un peu magique où elle va quasiment rentrer en contact un peu avec ses ancêtres hein, via cette image de la baleine et qui va évidemment mettre en lumière qui elle est et son destin. Et puis donc le dénouement, je disais, voilà, ça c'est le retour à l'hôpital, puisque Pai va monter sur le dos de cette baleine, elle va partir en mer, on va regarder l'extrait tout à l'heure, elle va aller sous l'eau en fait directement, donc il va falloir la sauver quand même des flots, elle va se retrouver à l'hôpital, donc on revient dans ce fameux hôpital, où elle va sortir d'une espèce de c'est pas très bien dit, si c'est pas un coma, mais enfin en tout cas, elle va devoir se réveiller de ce moment un peu traumatique, avec son grand-père qui va être à ses côtés, qui va lui dire, voilà, j'accepte, je reconnais ton statut, j'accepte et je me suis trompé. Donc on a ce cycle, et Pai qui rouvre les yeux à l'hôpital, cette renaissance. Donc c'est intéressant de voir aussi cette espèce de transformation qui se crée, et pour Pai, et pour son grand-père à ce moment-là. Et cette double naissance aussi, puis il y aura un dernier plan où ils ont construit un très grand bateau, et puis voilà, on voit que Pai est désormais la chef du village, et entourée par son grand-père et par toute la communauté. Il y aura des tas de symboles aussi tout au long du film. Je ne sais plus si c'est la slide d'après, ça c'est l'apprentissage. Oui, les symboles, voilà, j'en parlais notamment ici. Ah, il y a un symbole qui est intéressant justement aussi dans l'idée de la façon dont le personnage de Pai va évoluer, c'est que au départ, alors c'est vraiment une question de mise en scène mais qui est intéressante, de voir qu'au départ, Pai se promène en vélo avec son grand-père, elle est tout le temps avec lui. Alors, il y a ce côté profane entre guillemets, ce côté très simple. Ah. La scène de l'échouage des baleines, on va la regarder maintenant déjà. Donc, oui, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, les baleines se sont échouées, les habitants du village ont tenté de les faire repartir à la mer et ils ne sont pas arrivés, c'est un traumatisme un peu pour toute la communauté. Pai, elle arrive seule sur cette plage, à part, et elle va réussir à s'approcher d'eux et de cette baleine et à la faire repartir, et c'est le moment où on va le voir, la transmission du Raikuta de la grand-mère au grand-père en lui disant ben voilà, c'est en fait ta petite fille qui est l'élu. Et à quel point le grand-père est complètement marqué par cette révélation. Voilà, c'est une scène évidemment très importante dans le film et chargée émotionnellement, on va dire, qui est ce passage, un peu cette espèce de métamorphose pour l'héroïne. Et qui vient de boucler la boucle au final aussi de cette fameuse transmission ancestrale. Et elle passe de cet état de petite fille seule à quasiment cet être mystique et à la mère un peu de ce peuple hein, qui va renaître et qui va devenir un nouveau guide. Donc c'est aussi le moment de renaissance parce que ensuite on est vers la fin, il va y avoir justement la scène de la renaissance de la tribu. Et Edouard aussi d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant sur l'aspect, je disais, voilà, elle devient un peu la mère de la tribu. Évidemment, l'idée de l'eau hein, et du côté gestation, et de renaître sous l'eau, bien évidemment, il y a toute une connotation autour de la mère dans les deux sens du terme. Et puis, sur une des dernières scènes, on ne la voit pas, mais en fait, son père s'est remarié avec une jeune fille en Allemagne et il vient pour voir le sacrement, j'allais dire, de paille dans le village. Et on voit que sa nouvelle femme est enceinte, donc on a un plan sur le ventre de sa nouvelle femme. Donc on voit qu'il voilà, y a aussi alors je sais, j'ai un doute d'un seul coup, ils disent que c'est une fille, je crois qu'ils disent que c'est une fille, j'ai un petit doute en le disant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouvel enfant qui va arriver, il y a une nouvelle renaissance aussi dans la famille, donc un renouveau et un nouveau départ dans tout ça. Et je le disais, donc ce lien avec les ancêtres qui se recrée via ce moment un peu mystique que va vivre Paille. Un petit mot du coup sur la mise en scène. Là, on l'a vu déjà un petit peu dans cet extrait. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des différents moyens de locomotion, etc. Ça faisait partie aussi de l'aspect mise en scène. Alors, vous avez vu, je trouve que la photo est assez belle. Hein. Il y a un vrai travail photographique qui alterne, on a une espèce d'alternance entre des moments assez sombres, et notamment les moments sous l'eau, quand on voit les baleines. Hein, on est forcément dans une lumière assez sombre, ici aussi il fait pas très beau et tout ça, et on a quand même des scènes aussi très lumineuses de soleil, de moments où les moments où Paille essaye d'avancer, de se battre un peu dans ses fameux rituels, où là la photo va être beaucoup plus claire. On a un beau travail entre les deux, ces deux aspects un petit peu. Le chef de la photo, il s'appelle Léon Narbet, et je trouve qu'ils ont fait un beau travail d'éclairage dans les scènes comme ça sous-marines et les scènes un peu plus claires. On a la présence de la voix off aussi, je le disais tout à l'heure, qui n'est pas là simplement pour nous expliquer l'histoire, mais qui est vraiment les ressentis aussi de Paille et ce côté conteur et qui vient de parler de la conscience aussi de tout ça. La musique, là on l'a entendu, qui est composée par Lisa Gérard, qui là aussi vient parfois accentuer les moments d'émotion. Et en même temps, vous avez vu, c'est intéressant, le moment où elle part sous l'eau avec la baleine, la musique s'arrête complètement. Là, on n'a plus que le bruitage comme ça, un peu ouaté sous l'eau. On a ce moment suspendu qui vient un peu souligner ce moment solennel aussi pour ce personnage. Donc il y a une belle maîtrise aussi dans la façon dont est fait la bande-son en fait, du film. Je ne me suis pas vraiment étendu là-dessus, mais il y a aussi le fait que, un peu comme dans les courts-métrages dont on parlait tout à l'heure, on peut remarquer dans la mise en scène, dans plusieurs scènes, que Paille est très souvent filmée à l'écart des autres. Elle est souvent exclue, elle est souvent seule dans le cadre. C'est assez récurrent. Et même là, dans cette scène, forcément, elle prend le large. Il y a une vraie distance physique avec le reste du village et on voit à quel point... Alors, dans le début, quand elle vient en contact avec cette baleine, on a beaucoup, beaucoup de gros plans, un enchaînement assez conséquent de plans. J'ai noté 37 plans en 2 minutes, ce qui fait beaucoup. Les plans serrés hein, sur les pieds, les yeux, les mains, etc. Les plans sur la baleine. Elle est un petit peu enfermée dans ce cadre-là. Et puis, une ouverture un peu spectaculaire quand la baleine finit par partir. Là, on passe sur des plans plus larges, plus longs aussi. Mais elle est toujours seule face à tout ça, à la fois comme elle a été seule dans son parcours, et en même temps ça lui donne ce statut un peu quasi divin. Bon, elle regarde le ciel avec ce soleil qui commence à transparaître, on a quasiment une idée un peu de divin qui arrive là-dedans. Et elle passe, je me suis noté cette idée, mais qu'elle passe de cette solitude subie qu'elle a dès le début du film, puisqu'elle est mise à l'écart, en solitude un peu sacrée, comme je disais, de ce divin quand elle est sur cette baleine. Et on avait un petit slide sur la musique. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Chose intéressante aussi à aborder avec les élèves, c'est de parler des symboles, des rituels de Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment une mine d'or pour le coup, il y a plein de choses à aller chercher dans le film. Pareil, je vais vous montrer un document pédagogique que vous pouvez récupérer sur le site du distributeur, qui est un peu moins bien fait que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les autres films, mais qui a le mérite d'exister. Donc dans le film, on présente le haka, cette fameuse danse folklorique. Les tatouages aussi, hein, ce qu'on appelle les moko, donc les tatouages sur les visages des personnages, pas à un moment donné on porte pendant un des spectacles. Le fameux ributa, le canot, le waka, le canot traditionnel, qu'ils vont reconstruire à la fin du film. Donc on peut évidemment parler de tout ça. Je vous ai trouvé une petite vidéo concernant le haka qui peut être intéressante à montrer aux élèves, ça dure 2 minutes, puisqu'en fait c'est une vidéo qui date de l'année dernière. Les enfants de Nouvelle-Zélande apprennent le haka à l'école. Ça peut être drôle de montrer ça, puisque alors, dans le film, on voit le grand-père en train d'apprendre le haka aux enfants. Et vous pouvez leur montrer que bah, les enfants, aujourd'hui, apprennent toujours le haka à l'école. Les élèves, peut-être. Et c'est ce qu'on voit dans le film, hein, parce qu'on voit, voit Pai qui apprend aussi le haka. Voilà. Parmi aussi les choses évidemment importantes dans le film, il y a la figure de la baleine, hein, qui est cet ancêtre mythique, qui est un animal sacré. Donc on peut aussi parler de tout ça, puisque voilà, Pai, on voit à la fin, elle fusionne quasiment avec l'animal. Et j'ai trouvé aussi une petite, si vous voulez aborder, parler de l'animal aussi, de cet aspect-là, petite vidéo de Un jour une question sur les baleines aussi. Ça peut être un support pédagogique, une petite piste pédagogique. Donc, des petites choses à aborder avec vos élèves, en résumé. Alors notamment, je vais vous montrer le petit document pédagogique tout à l'heure, enfin juste après. Peut-être avant la projection, alors il y a peut-être l'idée effectivement de leur montrer la scène dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi l'idée de pouvoir regarder les affiches qu'on les trouve sur le site du distributeur. Il y a différentes déclinaisons d'affiches et pourquoi pas, avant de voir le film, parler des affiches, des couleurs, la façon dont sont représentés les personnages. Il y a une affiche sur laquelle on voit la baleine, d'autres non. Donc, ce qu'ils peuvent déjà imaginer en regardant les affiches du film. Et puis après la projection, les différentes thématiques, les différents débats, on en a parlé. Alors, masculin, féminin, le poids de ces traditions, hein, le côté tradition, modernité aussi. D'ailleurs, même la vidéo sur le haka qu'on a vu, voilà, ça peut être intéressant de montrer que ces traditions perdurent même encore aujourd'hui à l'école. La différence aussi, alors le film aussi est basé sur ce contraste entre l'océan et en même temps la terre, souvent sur la terre ferme, mais il y a un vrai contraste entre des moments très beaux, très posés sur l'océan, les baleines, les bateaux, des choses comme ça, et puis des moments beaucoup plus réalistes. Quand on est sur la terre ferme, entre guillemets, il y a des moments à l'hôpital, il y a des moments à l'école, il y a des moments ils sont en train de faire du bricolage sur les bateaux et tout ça. Un côté beaucoup plus terre à terre qui peut être intéressant aussi à analyser, on va dire. Et puis parler des différentes, ce qu'on a vu, hein, le haka, des différentes traditions aussi. Et les mettre en regard, pourquoi pas, avec d'autres films. Alors là, j'en ai mis que 4, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Là, j'ai mis quelques films au rebond. Le premier, Le cheval venu de la mer. Je n'ai pas vu celui-là. Il fait partie des... Ah oui, je vous mettrai en lien aussi un lien vers un dossier pédagogique qui avait été fait autour du film, dont je me suis servi aussi pour la présentation. Malheureusement, il n'est pas hyper visible parce que c'est un scan d'un document papier qui est disponible en PDF, mais bon, il est quand même là. Et notamment dans ce document, il y a des allusions à ce film-là, Le cheval venu de la mer, film anglais, autour de la figure d'un animal mythique, et enfin, d'un animal qui revient. Là, c'est l'histoire c'est autour d'un cheval. Donc, visiblement, il y a plusieurs ponts qui se font avec ce film. On a bien sûr Kirikou et la sorcière sur le poids des traditions, tout l'aspect de, d'organisation d'un village et comment un enfant fait face un peu à toutes ces traditions-là. J'ai mis la source des femmes pour le côté les problématiques au niveau de la solidarité féminine aussi et de comment les femmes doivent un petit peu sortir des, de ces traditions-là, comment elles peuvent faire leur place aussi là-dedans. Et je trouve que ça, c'est un film qui peut faire écho à cette problématique. J'ai pas pu m'empêcher de mettre Vaiana parce que, mine de rien, bon, c'est un film qu'ils connaissent pour le coup probablement, mais il y a beaucoup de ponts qui peuvent se faire, il y a beaucoup de thématiques communes. Même si c'est pas l'histoire de Vaiana, ça passe pas en Nouvelle-Zélande, mais il y a des trucs entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, il y a des points communs, et puis surtout le destin de cette fille qui doit aussi prendre la tête du village. Donc j'y ai pensé, on peut faire des ponts vers d'autres films, notamment il y a Billy Elliot sur le fait de ces enfants qui doivent qui sont pas dans le sens des traditions, j'allais dire, et qui font des choses un peu hors norme. On peut se poser la question sur Moby Dick, il y a un film Moby Dick, mais bon, c'est pas tout à fait le même traitement de la baleine, mais pourquoi pas, ça peut être aussi une façon d'aborder la figure de la baleine. Il y a un film de John Huston avec Gregory Peck sur Moby Dick, si jamais ça peut vous intéresser. Je vous montre rapidement le document pédagogique, il y en a un ou deux dispo sur le site du distributeur, c'est pas celui-là,